Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Le G20 d'Osaka, les États-Unis et la Chine déclarent une trêve. L'accord de Paris sur le climat a, lui, bien failli perdre de ses signataires. Nous serons en ligne dans un instant d'Osaka avec Dominique André. Bruxelles chantre du libre-échange avec un autre accord incontestablement historique après 20 ans, oui, 20 ans de négociations. L'Union européenne et le Mercosur ont conclu hier un vaste traité. Attention, danger, tonnent les défenseurs de l'environnement. Correspondance de Bruxelles, de Lakshmi Lottam. Également au sommaire de cette édition, le portrait de la capitaine du navire Sea-Watch 3, Carola Rackete, arrêtée au petit matin sur le port de Lampedusa. Portrait signé Bertrand Calichet. La dernière bulle économique de la saison, Marie Viennot s'attarde sur ces riches Américains qui demandent la création d'un impôt sur la fortune. Comme en Argentine l'année dernière à Osaka, les deux poids lourds du G20 enterrent la hache de guerre en promettant de revenir à la table des négociations. La Chine et les États-Unis s'engagent à relancer les pourparlers et cessent pour l'instant de se livrer à d'interminables escalades verbales ponctuées de lourdes menaces à coups d'asphyxiantes taxes douanières. Bonjour Dominique André.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en direct d'Osaka. Dominique, quelle signification prêter à cette accalmie ?
Eh bien, cette réunion s'est déroulée dans une salle du bâtiment du G20 sur une île artificielle dans la baie d'Osaka. Et c'est dans ce huis clos avec leurs conseillers, finalement, que le calme est revenu. Très rapidement après la fin de la réunion, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a annoncé que les négociations interrompues brutalement le mois dernier allaient reprendre. Toutefois, sans donner de calendrier. L'autre résultat positif pour la Chine tout de même, c'est que Donald Trump renonce à imposer des tarifs douaniers supplémentaires sur les importations chinoises sur 300 milliards de dollars de marchandises. Alors Donald Trump a confirmé ses avancées, mais après le sommet, lors de la conférence de presse, le président des États-Unis a surtout annoncé que les entreprises américaines pourraient continuer de vendre leurs produits aux géants chinois des télécommunications Huawei. Or, le mois dernier, Washington avait interdit aux entreprises américaines de commercer avec Huawei pour des raisons de sécurité, en craignant que le groupe chinois récupère des technologies américaines sensibles. C'est donc une concession importante qui est faite, on peut le dire, par Donald Trump aux Chinois. En revanche, Huawei n'a toujours pas le droit de vendre sa 5G sur le sol américain.
Dominique, à cette accalmie entre Chine et États-Unis, il faut confronter les tumultueux pourparlers sur l'accord de Paris sur le climat. Ce ne fut pas facile à ce chapitre.
Oui, alors c'est une victoire pour la France, qui est la mère de cet accord de Paris sur le climat. C'est une victoire surtout pour l'Europe, qui en constituant un front uni a su résister aux États-Unis. La bataille a été difficile, effectivement. Tous se le disent ici. Les discussions avec les Américains ont été très dures. Elles se sont interrompues la nuit dernière pour reprendre ce matin. En fait, jusqu'au dernier moment, les équipes de Donald Trump ont tenté de recruter des pays émergents comme la Turquie, l'Arabie Saoudite ou le Brésil pour qu'ils se rallient à la position américaine. Mais les Européens se sont battus aussi. Et comme à Buenos Aires l'an dernier, vous le disiez, et même à Hambourg en 2017, Le sommet du G20 aboutit à un communiqué final qui maintient les ambitions de l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique. Le président de la République française l'a dit, on a évité de reculer, mais nous devons aller beaucoup plus loin, a martelé quand même le chef de l'État après le sommet. Il est vrai que 4 ans après la signature de l'accord de Paris, les pays signataires en sont encore à défendre les acquis de 2015 sans pouvoir avancer, alors que tous les scientifiques mettent l'accent sur l'urgence de mesures concrètes.
Merci à vous, Dominique André, en direct d'Osaka. Dominique André, accompagné de Nicolas Mathias. Merci à vous deux. Le climat, justement, à la croisée de bien des enjeux, ne risque-t-il pas de payer les frais d'un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, à savoir Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay? C'est un marché qui rassemble près de 800 millions de consommateurs. Avant d'en énumérer les grandes lignes, nous vous proposons de prendre la mesure de la prudence du chef de l'État français Emmanuel Macron à Osaka.
Un bon accord commercial est bon pour nos entreprises et nos emplois. Et cet accord permettra d'ouvrir des marchés agricoles et industriels et de protéger nos indications géographiques. Et je considère que cet accord, à ce stade, est bon, compte tenu du fait que les demandes que nous avions formulées ont été intégralement prises en compte par les négociateurs mais que c'est dans la durée qu'on pourra apprécier les conditions préalables d'ailleurs à une ratification de celui-ci, puis à sa mise en œuvre.
Emmanuel Macron a déjà quelques réactions à considérer, celle de la patronne de la FNSEA qui qualifie ce pacte d'inacceptable. Pascal Durand, élu sur la liste européenne Renaissance du président français, prétend qu'il s'agit, je cite, d'un jour funeste pour l'Union européenne, le climat et notre alimentation, l'accord détruira, poursuit-il, l'environnement, la forêt amazonienne et notre agriculture traditionnelle. Fin de citation. Quelles sont les principales mesures de cet accord? C'est une correspondance de Bruxelles de Laxmi Lotta.
Il concerne 770 millions de consommateurs. Cet accord permettra d'éliminer de nombreux droits de douane entre les deux parties au niveau industriel et agricole, mais il concerne aussi les services, les mesures sanitaires et la propriété intellectuelle par exemple. C'est un réel message en soutien à un commerce ouvert, équitable et durable, affirme le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Mais le texte suscite l'inquiétude des agriculteurs européens qui craignent une concurrence déloyale, notamment concernant le bœuf. Le commissaire européen à l'agriculture leur a promis une aide financière jusqu'à 1 milliard d'euros en cas de perturbation du marché. L'accord permettra aux pays du Mercosur d'exporter 99 000 tonnes de viande bovine en Europe sans droit de douane chaque année. De leur côté, les Européens ont obtenu la protection de 357 indications géographiques et la fin des droits de douane sur les voitures et les pièces détachées. Les critiques proviennent également de 340 ONG européennes et sud-américaines. Elles déplorent la détérioration des droits de l'homme et de l'environnement. Les forêts et les droits des travailleurs seront respectés, répond la Commission. L'accord doit encore être approuvé par les 28 États membres et le Parlement européen.
L'Europe, dont les populistes instrumentalisent les failles, en témoigne la brutalité armée de vulgarité dont fait montre le ministre italien de l'Intérieur lors d'un drame de l'exil en pleine mer. Matteo Salvini, qui a récidivé ces derniers jours en interdisant au Sea-Watch d'accoster à Lampedusa, n'a-t-il pas déclaré, il y a 3 jours, ouvrez les guillemets, ils ne sont pas autorisés à accoster, je suis prêt à envoyer la police. Ça me casse les couilles, fermez les guillemets. Au terme d'un bras de fer avec la capitaine de ce navire, battant pavillon néerlandais, Carola Rackete, les 40 réfugiés secourus au large des côtes libyennes ont été pris en charge et Carola Rackete emprisonnée. Qui est cette femme qui incarne la résistance à la démagogie des populistes? Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Mathieu.
Bertrand, vous nous brossez son portrait.
Eh bien, celle que certains Italiens surnomment la capitaine ou la nouvelle Jeanne d'Arc, une jeune femme au physique menu, mais charismatique et déterminée, qui a parcouru le monde d'abord avec ses parents, puis pour ses études et enfin avec son métier. Carola Rackete est née il y a 31 ans à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, sur les rives de la Baltique. La famille qui a beaucoup voyagé s'établit finalement à Amburen, près de Hanovre. C'est là où elle passe son bac avant d'entreprendre des études de marine marchande, toujours en Allemagne, puis de protection de l'environnement au Royaume-Uni. Elle travaille pour une compagnie de croisière, puis se spécialise dans les zones polaires et les brises-glaces. Un parcours engagé qui devient militant lorsqu'elle rejoint l'ONG allemande Sea-Watch avec une première mission en Méditerranée en 2016. À l'époque, l'association humanitaire travaille en coopération avec les marines nationales de plusieurs pays européens qui portent secours aux migrants au large de la Libye. Mais le raidissement des capitales européennes et surtout de Rome face aux passeurs et au trafic conforte la jeune femme dans son combat. Carola Rackete en fait une question de principe, non seulement en raison de l'obligation de sauver des vies, mais aussi parce qu'elle refuse la politique européenne en matière d'immigration. Elle dit « Nous, les Européens, avons permis à nos gouvernements de construire un mur en mer. Il y a une société civile qui se bat contre cela et j'en fais partie. » Carola Rackete se dit prête à aller en prison et à se défendre devant les tribunaux, persuadée que sa cause est juste.
Merci à vous, Bertrand Galichet. Plus de 100 combattants tués pour la seule journée d'hier dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. L'armée régulière et ses alliés russes tentent de reprendre aux djihadistes une colline stratégique conquise au début du mois par des effectifs de Tahrir al-Sham. C'est un enjeu sociétal qui divise tous les corps politiques. L'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée qui sera discutée à l'automne à l'Assemblée nationale est défendue, revendiquée en pleine rue cet après-midi à Paris à la faveur de la 41e édition de la Marche des Fiertés. La Marche pour l'égalité des droits et contre les discriminations LGBT est organisée par la Fédération d'associations inter-LGBT. La PMA, qui agite la majorité présidentielle, confère l'exclusion d'Agnès Thil du parti La République en Marche cette semaine. semaine exclu cet élu pour ses propos jugés pernicieux par la direction du parti. Pauline Pénanec.
L'exclusion d'Agnès Thil n'a pas été approuvée par tout le monde, non, et cela pose des questions pour Sonia Crimi.
Elle a son image à elle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de tous les Français qui pensent comme elle? On les exclut de la France?
La députée de la Manche, pro-PMA, défend la liberté d'expression. Elle dénonce une erreur que le parti payera.
Tous les amis qui sont archi-pro-PMA pour toutes, mais qui ne tiennent pas à un avis sectaire dans un sens comme dans un autre, regrettent beaucoup le départ d'Agnès Thil. Ce que je regrette, c'est que quand on exclut quelqu'un, ça veut dire on ne veut plus parler avec lui. Mais c'est comme si, pour moi, on se coupe d'une bonne partie de notre électorat.
D'autres députés, dit-elle, vont se demander s'ils pourront dire ce qu'ils pensent du projet de loi. Alors, a-t-on le droit d'être contre? Oui, mais on peut argumenter sans déraper, rappelle Guillaume Chiche. Le parlementaire le dit d'ailleurs, d'autres sont opposés à la PMA pour toutes, ont des réserves, les expriment d'ailleurs sans stigmatiser quiconque. Et ces personnes ne s'exposeront pas à des sanctions. Avis partagé par le député Aurélien Taché.
Qu'il puisse s'exprimer, c'est possible, à condition de ne pas franchir la ligne rouge qui a été franchie par Agnès Thil. Et ce n'est pas acceptable dans un mouvement comme le nôtre. C'est jamais une bonne nouvelle d'exclure quelqu'un d'un groupe parlementaire ou d'un mouvement politique. On est bien d'accord. Je veux simplement dire que quand on se prétend et on se revendique humaniste, on ne peut pas tout accepter non plus.
Alors est-ce que l'exclusion d'Agnès Thil change la donne? En tout cas, au parti, on le répète, les députés de la majorité auront une liberté de vote sur ce sujet qui relève de l'éthique et du sensible de chacun.
La bulle économique, Marie Viennot.
Pour cette dernière bulle économique de la saison, Marie, vous revenez sur cette tribune de milliardaires américains qui ont demandé en début de semaine la création d'un impôt sur la fortune. I've been working on the
railroad all the long day. Vous ne connaissez pas sa voix, ni son jeu de ukulélé, mais son nom. L'homme qui chante, c'est Warren Buffett. Dans le palmarès des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett est troisième, juste devant Bernard Arnault. Il pousse régulièrement la chansonnette, mais on le connaît surtout pour être le milliardaire qui veut payer plus d'impôts. « Taxez-moi plus », c'est son refrain préféré. En 2011, il a même publié une tribune intitulée « Arrêtez de choyer les riches », dans laquelle il disait que les dirigeants demandaient des sacrifices partagés, sauf à lui. Selon ses calculs, lui paye 17% de ses revenus en impôts, alors qu'en moyenne, ses employés sont à 32%. Que la fiscalité américaine nourrisse les inégalités, Warren Buffett n'est pas le seul milliardaire à le déplorer outre-Atlantique. Bill Gates, numéro 2 au palmarès des plus riches du monde, le dit aussi régulièrement. Le système fiscal pourrait prélever beaucoup plus sur les grandes fortunes, expliquait en février dernier le fondateur de Microsoft dans un show télévisé américain. Mais ni lui, ni Warren Buffett ne murmurent aux oreilles de Donald Trump qui, depuis le début de son mandat, a considérablement baissé les impôts de tous et des plus riches, plus que tout. Cependant, cette semaine, numéro 2 et numéro 3 ont été rejoints par 18 autres milliardaires qui, eux aussi, demandent à être taxés davantage. Ils s'adressent à ceux et celles qui vont s'élancer dans la campagne des primaires. George Soros est le plus médiatique d'entre eux. Les autres milliardaires sont des personnalités connues pour leur engagement philanthropique. Il y a aussi une héritière Disney, l'un des cofondateurs de Facebook, Chris Hughes, ou encore Justin Rosenstein, un ancien programmateur de Google et Facebook, aujourd'hui connu pour ses positions anti-réseaux sociaux. 18 milliardaires sur les 607 qu'il y a aux États-Unis, cela fait peu, 3% exactement. Mais leur tribune a le mérite de proposer une solution concrète pour réduire les inégalités. Devinez quoi? La création d'un impôt sur la fortune. Reprenant mot pour mot les propositions de deux économistes français qui enseignent aux États-Unis, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, les 18 milliardaires écrivent qu'une taxe de 2% au-dessus de 50 millions de dollars de capital et 3% au-delà d'un milliard pourrait rapporter 3 000 milliards de dollars sur 10 ans. Cet impôt sur la fortune, on le trouve aussi dans le programme de l'une des candidates à l'investiture démocrate, Elizabeth Warren, mais les milliardaires se défendent de soutenir quiconque. Un impôt sur la fortune, écrivent-ils, est juste, patriotique, bon pour l'économie, bon pour la santé des Américains, c'est un outil pour régler la crise climatique, un impôt sur la fortune renforcera la liberté et la démocratie, lit-on encore, car les inégalités nourrissent le mécontentement, la défiance, and worse, et pire. Come on, baby, and eat the rich. Put the pie on the son of a bitch. Quand cette chanson « Manger les riches » est sortie, il y a déjà 30 ans, les 1% d'Américains les plus fortunés possédaient environ 10% de la richesse du pays. Aujourd'hui, 20%. Dans le même temps, ces 1% ont vu leur fortune augmenter de 21 000 milliards de dollars, quand celle des 50% les plus pauvres diminuait de 900 milliards. Alors qu'en France, on vient de le supprimer au nom d'un ruissellement espéré outre-Atlantique. Au contraire, l'impôt sur la fortune s'apprête donc à devenir l'un des thèmes de la campagne de la présidentielle américaine au nom d'un ruissellement qui n'a pas eu lieu ou pas dans le bon sens. Ah, ces Américains, ils sont décidément toujours en avance sur nous.
Merci à vous, Marie Viennot. Quelques mots de la météo. Selon Météo France, le temps cet après-midi sera toujours caniculaire sur la majeure partie du pays. Il fera un peu moins chaud sur le sud-est. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili à la technique Laurie Vachon.